Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus, bienvenue dans ce deuxième épisode de Hors Cadre, l'émission qui décortique les grandes œuvres littéraires adaptées à l'écran. En cette période d'Halloween, je vous propose aujourd'hui d'analyser une œuvre qui aura marqué de manière indélébile l'histoire horrifique de la littérature et du cinéma, car nous allons aujourd'hui nous intéresser à Shining. October 30, 1974. L'hôtel Stanley, une grande bâtisse isolée située dans la ville de Estes Park dans le Colorado, entame sa saison creuse. Ce jour-là, Tabitha King et son mari Stephen, de passage dans la région, viennent poser leurs valises dans ce grand établissement pour y passer la nuit. Mais ce que le couple ignore encore, c'est que le séjour dans cet hôtel va donner naissance à l'une des œuvres horrifiques qui comptera parmi les plus importantes du XXe siècle. Cette même année 1974, Stephen King vient de publier son premier roman intitulé Carrie et dont les premiers retours critiques et commerciaux sont en passe de le faire devenir un auteur prolifique et reconnu. Il faut dire que le jeune auteur, alors âgé de 27 ans, traverse une passe difficile. Persuadé que ce premier roman sera un échec, il noie alors son désarroi dans l'alcool. Heureusement, sa femme, Tabitha, avec qui il s'est marié 3 ans plus tôt et a eu 2 enfants, croit plus que quiconque au talent de son époux. Ainsi, lorsque ce dernier décide de jeter l'intégralité de son premier manuscrit à la poubelle, la jeune femme récupère l'ouvrage et force son mari à le publier. Elle décide aussi qu'une mise au vert de quelques jours sans les enfants sera bénéfique pour traiter l'alcoolisme de Stephen et permettre au couple de se retrouver. C'est dans ce contexte que les époux King arrivent au Stanley Hotel en cette fin d'octobre, cherchant un endroit où passer la nuit. À leur arrivée, ce lieu imposant, qui fut construit en 1909 et offre une vue panoramique sur les montagnes rocheuses, est quasiment vide. En effet, ce jour-là, Stephen King et sa femme sont les 2 seuls clients de l'établissement qui s'apprêtent à fermer pour l'hiver dès le lendemain. On leur attribue la chambre 217, située au 2e étage du bâtiment principal et offrant une vue imprenable sur les montagnes. Cette nuit-là, le sommeil du jeune écrivain est perturbé par un cauchemar intense dans lequel son fils de 2 ans, Joe, est poursuivi dans les interminables couloirs de l'hôtel par un tuyau d'incendie vivant. Le lendemain matin, le couple part de l'établissement et continue leur voyage dans le Colorado. Mais ce court séjour dans cet hôtel isolé et désert, ainsi que ce cauchemar, a marqué l'écrivain, qui voit naître dans son esprit le thème de son prochain roman. C'est ainsi que, quelques mois plus tard, Stephen King entame l'écriture de son nouveau livre, Shining, roman dont il achèvera l'écriture en moins d'un an. Shining raconte l'histoire de Jack Torrance, un écrivain en difficulté qui accepte un poste de gardien hivernal dans l'hôtel Overlook, un établissement isolé dans les montagnes du Colorado. Il s'y installe avec sa femme Wendy et son fils Danny, qui possède un pouvoir psychique appelé le Shining, lui permettant de percevoir les horreurs surnaturelles qui hantent l'hôtel. Tandis que l'hiver isole la famille, Jack succombe peu à peu à l'influence maléfique de l'Overlook, qui l'entraîne dans une spirale de folie, le poussant à menacer la vie de sa propre famille. Danny, grâce à ses pouvoirs, devient la clé pour échapper à l'emprise terrifiante de l'hôtel. Pour le personnage principal de Jack Torrance, un écrivain en proie à l'échec et à la colère, luttant contre ses démons intérieurs, King projette ses propres peurs, ses frustrations créatives et ses addictions. Il se souvient par exemple un jour avoir surpris son jeune fils Joe en train de s'amuser à répandre de la bière sur sa machine à écrire et s'est imaginé lui faire du mal physiquement. Ce genre de pensée inavouable, King compte bien les matérialiser dans son histoire afin de montrer comment un homme peut basculer dans la folie jusqu'à commettre l'irréparable. La femme de Jack, Wendy, est quant à elle décrite comme une femme attirante, forte, une mère dévouée et protectrice envers son fils Danny. Mais le personnage central du roman est avant tout l'Overlook. L'établissement est ancien, rempli de secrets et marqué par un passé trouble. Son atmosphère, de plus en plus oppressante au fur et à mesure que l'hiver avance, exerce une influence maléfique sur Jack Torrance, amplifiant sa folie, tandis que les pouvoirs psychiques de Danny lui permettent de percevoir les forces sombres que renferme l'Overlook. King instille donc dans son écriture une grande dimension surnaturelle dont l'hôtel est imprégné, influant directement sur la santé mentale de ses occupants. À sa sortie en 1977, Shining devient le troisième roman écrit par Stephen King juste après Carrie et Salem, publié lui 2 ans plus tôt. Le roman est bien accueilli par la critique, qui loue son mélange unique de terreur psychologique et de surnaturel, ainsi que son exploration du thème de la folie, de l'isolement et des troubles familiaux. Le succès commercial est également au rendez-vous pour King, le livre devenant instantanément un best-seller. Une popularité qui va s'amplifier 3 ans plus tard avec l'adaptation cinématographique par celui qui, en 1980, est déjà considéré comme l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, à savoir Stanley Kubrick. Cette même année 77, Stanley Kubrick, qui vient de réaliser 2 ans auparavant Barry Lyndon, cherche désormais une œuvre littéraire horrifique à adapter à l'écran. Le réalisateur de Orange Mécanique s'intéresse en effet depuis un moment au genre de l'épouvante et a même refusé, quelques années auparavant, d'adapter le roman de William Peter Blatty, L'Exorciste, qui sera finalement mis en scène par son confrère William Friedkin en 1973. Parmi tous les ouvrages qu'il consulte, Shining attire immédiatement l'œil aiguisé de Kubrick. Ce qui l'attire n'est pas tant l'aspect purement surnaturel et horrifique du roman, mais plutôt les thèmes sous-jacents liés à la folie, l'isolement et à la dynamique familiale qu'il considère comme plus profonds et plus adaptés à son style de réalisation. Le cinéaste étant connu pour son côté méticuleux, voire obsessionnel, a décidé depuis les années 60 de ne plus prendre l'avion et de ne plus tourner un film en dehors de l'Angleterre, pays où il réside. Qu'à cela ne tienne, la majorité des décors de l'hôtel Overlook seront construits dans les studios d'Elstree, près de Londres, pour un coût avoisinant les 2 millions de dollars. Évidemment, aucun détail n'est laissé au hasard et chaque pièce, chaque élément constitutif du décor est travaillé afin de retranscrire au mieux toute l'authenticité ainsi que le côté massif et labyrinthique de l'édifice. Here's Johnny. Comme la plupart des décisions de Kubrick, le casting est lui aussi un processus long et réfléchi. Ainsi, après avoir envisagé des acteurs comme Robert De Niro, Harrison Ford et même Robin Williams pour incarner Jack Torrance, le choix du réalisateur se porte assez naturellement sur Jack Nicholson, un comédien déjà auréolé d'un Oscar pour Vol au-dessus d'un nid de coucou, et dont il admire le charisme et sa capacité à jouer des personnages complexes proches de la folie. Pour le personnage de Wendy, il cherche une actrice à la fois vulnérable et forte pour faire face à Jack. Son choix se porte alors sur Shelley Duvall, une actrice au physique frêle qui s'est précédemment fait remarquer dans des productions de Robert Altman. Enfin, pour le rôle du fils Torrance, Stanley Kubrick auditionne plus de 5000 enfants avant de choisir Danny Lloyd, alors âgé de 6 ans. L'enfant est impressionné par son aptitude à se concentrer et à suivre les instructions complexes du réalisateur tout en restant naturel. Kubrick s'entoure également de collaborateurs de talent, puisqu'il fait appel entre autres à son directeur de la photographie John Alcott, un chef opérateur de génie qui avait déjà œuvré sur Orange Mécanique et Barry Lyndon. Il en va de même pour la musique, car la compositrice Wendy Carlos, pionnière de la musique électronique, fait également partie de l'équipe et vient ajouter une atmosphère sonore à la fois troublante et oppressante au film. Le tournage commence finalement à l'été 1978 et durera 1 an. Ce long processus de production était en grande partie dû à la méthode de Kubrick qui filmait les scènes dans l'ordre chronologique. Cela lui permettait d'ajuster le script en fonction de la performance des acteurs pour que chaque scène soit parfaite. Cette méthode, qui contribue grandement à la qualité du film, était cependant extrêmement éprouvante pour les acteurs. Celle qui en souffrit le plus fut certainement l'actrice Shelley Duvall qui interprète le personnage de Wendy. Stanley Kubrick, fidèle à sa réputation, n'hésita pas à lui faire rejouer certaines scènes plus de 120 fois, ce qui eut des effets dévastateurs sur la santé mentale et physique de la jeune comédienne. Jack Nicholson, quant à lui, mise en pratique des méthodes d'automotivation, allant jusqu'à se mettre dans un état d'excitation intense avant de tourner des scènes particulièrement chargées émotionnellement. Le seul acteur épargné fut peut-être Danny Lloyd, qui ne savait pas qu'il jouait dans un film d'horreur. En effet, afin de préserver le jeune comédien, le réalisateur et sa famille lui firent croire qu'il tournait dans un drame familial. Souvent reconnu pour la maestra et la complexité de sa mise en scène, Shining fit également date dans l'histoire du cinéma pour ses innovations techniques. Kubrick fit notamment appel à l'opérateur caméra Gareth Brown, qui inventa quelques années auparavant la Steadicam, un dispositif capable de filmer des séquences en mouvement tout en éliminant les secousses. Cette technique, qui avait déjà fait ses preuves 2 ans auparavant dans des films comme Marathon Man ou bien Rocky, avec la célèbre scène de la montée des marches, permet dans Shining de créer des mouvements fluides et immersifs qui renforcent le sentiment d'angoisse et d'isolement. Shining sort finalement le 23 mai 1980 et reçoit des critiques partagées, certains journalistes allant même jusqu'à qualifier le film d'échec. Souvent incompris par ses contemporains, Kubrick a pris pour habitude d'ignorer les critiques négatives de ses œuvres qui sont systématiquement réévaluées au fil du temps. Le succès commercial du film lui donnera raison car Shining engrangera plus de 44 millions de dollars rien qu'au box-office américain, ce qui en fit l'un des films d'horreur les plus rentables de son époque. Mais bien qu'il divise les critiques, il y en a un pour qui cette adaptation bafoue totalement le matériau original. Ce détracteur, qui reproche à Kubrick d'avoir pris trop de liberté par rapport au roman initial, n'est autre que son créateur, Stephen King. Pour commencer, Stephen King reproche à Stanley Kubrick la caractérisation de ses personnages. En effet, Jack Torrance est décrit dans le livre comme un homme complexe qui lutte contre ses démons intérieurs, notamment l'alcoolisme, et qui finit par succomber sous l'influence de l'hôtel Overlook. Le Jack du film, interprété par Nicholson, semble au contraire être fou dès le début, sans la progression lente vers la folie que King jugeait essentielle à l'arc dramatique du personnage. Kubrick a délibérément choisi de rendre Jack directement instable, afin de créer une tension immédiate dès les premières scènes dans le but d'installer une ambiance oppressante. Il en est de même pour Wendy, qui est décrite dans l'œuvre de King comme une femme forte et déterminée, alors que celle de Kubrick est beaucoup plus passive et soumise. Là encore, le réalisateur justifie son choix. Il a voulu accentuer la vulnérabilité du personnage afin de souligner l'effet destructeur que Jack a sur elle. Ce sentiment d'emprise permettant ainsi de renforcer l'intensité psychologique du film. Les reproches de l'auteur ne s'arrêtent cependant pas là. Ce dernier installe ostensiblement des éléments surnaturels tout au long de son récit, faisant de l'hôtel Overlook le personnage central du roman, une véritable force maléfique qui étend peu à peu son emprise sur ses occupants. Kubrick, lui, rend l'influence de l'hôtel beaucoup plus ambiguë, le spectateur ne sachant jamais vraiment si les événements sont surnaturels ou une conséquence de l'isolement et de la fragilité mentale de ses habitants. La rédemption est également un thème cher à Stephen King qui fait lutter le personnage de Jack contre l'influence de l'hôtel jusqu'à la fin, insufflant ainsi à son histoire une dimension tragique. Le Jack de Kubrick, lui, ne semble ressentir aucun remords, une vision plus nihiliste centrée sur la perte totale de contrôle et d'humanité. Il existe encore de nombreuses différences entre les deux œuvres, allant même jusqu'à l'arme du crime, un maillet de croquet symbolisant le retour à un jeu violent pour le Jack du livre, contre une hache qui renforce la menace immédiate que représente le Jack du film. All around me are familiar.
pieces.
Mais la distinction principale entre les deux œuvres réside dans la conclusion de l'histoire. Ne voulant pas dévoiler en détail les deux fins pour les éventuels futurs lecteurs ou spectateurs, qui n'auraient pas encore pris connaissance de ces œuvres, disons simplement ceci. Si le Jack Torrance du livre fait un pas vers la rédemption, rétablissant un certain ordre moral, celui du film reste piégé dans un labyrinthe mental, renforçant l'idée d'un fatalisme inexorable. Ces deux conclusions permettent de mettre en évidence ce qui oppose la vision de ces deux auteurs. Pour King, Shining est une histoire humaine sur la déchéance d'un homme et l'amour d'un père pour son fils, tandis que Kubrick a créé une œuvre froide centrée sur la folie et l'isolement, où les personnages font face à une horreur plus existentielle et ambiguë. Cette dichotomie entre l'écrivain et le réalisateur souligne parfaitement les différents enjeux qui existent dans toute adaptation. On assiste ici à la vision de deux artistes qui excellent chacun dans leur domaine respectif. Que ce soit le livre ou le film, Shining est aujourd'hui une œuvre connue de tous qui possède une place prépondérante dans la culture populaire. Le roman est rapidement devenu un classique du genre et a permis d'asseoir définitivement la réputation de Stephen King comme maître de l'horreur. Son œuvre a inspiré une génération d'auteurs horrifiques, contribuant à élever le genre en l'ancrant dans des problématiques humaines et psychologiques bien au-delà des récits surnaturels classiques. Joe Hill et Owen King, les fils de Stephen King, sont d'ailleurs aujourd'hui eux aussi reconnus comme des écrivains horrifiques à succès. La popularité de Shining ne s'est jamais amenuisée et a conduit Stephen King à écrire une suite intitulée Doctor Sleep, publiée en 2013. Suite qui fut également adaptée au cinéma par Mike Flanagan en 2019. Le film, quant à lui, malgré les critiques mitigées à sa sortie, a été réévalué pour finalement devenir une œuvre culte, considérée aujourd'hui comme l'un des meilleurs films de tous les temps. L'atmosphère glaciale, les scènes cultes, la prouesse de la mise en scène de Stanley Kubrick, ainsi que la performance intense de Jack Nicholson continuent encore aujourd'hui à marquer les esprits. De nombreux réalisateurs comme Christopher Nolan, David Lynch ou plus récemment Ari Aster ont cité Shining comme une source d'inspiration pour leur travail. Le chef-d'œuvre de Kubrick est également l'un des films les plus analysés par les cinéphiles du monde entier, donnant lieu à de multiples interprétations et analyses. Pour ma part, j'ai découvert pour la première fois le film à l'âge de 12 ans. Pour chacun d'entre nous, il se produit un jour un tournant dans notre cinéphilie. On regarde d'abord des films d'animation lorsque nous sommes enfants, on regarde ensuite des films avec ses parents lorsque l'on grandit un peu, et puis, petit à petit, on se met à regarder des films seul en développant un attrait plus ou moins fort vers un genre ou un autre. Ce n'est pas encore de la cinéphilie, mais ce sont des choses qui nous plaisent, parce qu'il y a de l'action, parce qu'on aime tel personnage ou un autre, ou bien simplement parce qu'une scène nous marque et l'on peut ainsi revoir en boucle et en boucle certains films, dont la plupart sont indispensables, mais lorsque l'on est enfant, les notions de réalisation, de narration ou même d'acting nous sont complètement étrangères. Et puis un jour, on regarde un film et on prend soudainement conscience de tout ce que cela implique. On se rend compte qu'il y a une personne qui a filmé tout ça, que des gens que l'on ne voit pas à l'écran ont maquillé les acteurs, que d'autres ont construit des décors, etc., etc. Pour moi, Shining est le film qui m'a fait prendre conscience que derrière ce personnage fou qui s'acharnait à coups de hache sur une porte, il y avait un acteur qui jouait ce rôle. C'est là, avec ce film, que ma candeur s'est progressivement transformée en curiosité. Et ce fut pour moi le début de la compréhension de ce que représente véritablement le cinéma. Ayant revu le film de nombreuses fois, je me suis plus tard logiquement dirigé vers le livre, étant devenu avec le temps un grand fan de Stephen King. On a souvent tendance à dire que le livre était mieux que le film, ou dans certains cas l'inverse, mais Shining est la preuve concrète que deux versions, et surtout deux visions d'une même œuvre, traitées chacune de manière unique, peuvent coexister et avoir un impact tout aussi retentissant. Si vous voulez en savoir davantage concernant ces deux chefs-d'œuvre, je vous recommande le très bon documentaire Stephen King, Le Mal Nécessaire, réalisé par Julien Dupuis, ainsi que l'excellent Making the Shining, un document inédit réalisé par la fille de Stanley Kubrick, qui dévoile les coulisses du film. Vous venez d'écouter Hors Cadre sur Radio Campus, à très bientôt pour un nouvel épisode.